Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Bonjour mon jeune ami, comment t'appelles-tu ?
Clément.
Sois le bienvenu Clément. Je suppose que tu as lu le titre du livre, donc si tu es ici, c'est certainement parce que tu as décidé d'apprivoiser une grenouille.
Oui, une grenouille. Je veux une grenouille pour l'emmener chez moi et la garder dans un bocal. C'est mon rêve le plus cher.
Je te félicite, c'est une excellente idée. Les grenouilles sont des animaux de compagnie charmants et fidèles. Nous allons voir comment il faut s'y prendre pour les approcher et gagner leur confiance. C'est très simple. Le meilleur moyen d'apprivoiser une grenouille, c'est de lui chanter une belle chanson.
Ça tombe bien, j'adore chanter. La la, la la la.
Oh là là là, ça ne va pas du tout. Les grenouilles ont l'oreille délicate. Il ne s'agit pas de brailler n'importe comment. Tu devras d'abord prendre des cours de chant.
Ah, bah j'ai des cours de musique le jeudi avec Madame Sourdia, mais on fait juste des trucs nuls à la flûte à bec. Et...
Non, non, non. Le meilleur endroit pour prendre des cours de chant, c'est chez un lutin des montagnes. Ceux-ci sont réputés pour avoir une voix particulièrement mélodieuse quand ils chantent, surtout la nuit, au clair de lune. Tu devras donc commencer par escalader la montagne la plus proche de chez toi. Ensuite, il faudra capturer un lutin des montagnes pour qu'il t'apprenne à chanter.
D'accord, mais comment je le capture, le lutin des montagnes ?
C'est très simple. Tu devras attendre une nuit de pleine lune, te cacher derrière un arbre et patienter jusqu'à ce qu'un lutin sorte de sa tanière pour venir chanter. Les lutins des montagnes sont des êtres très méfiants. Il faudra être patient. J'espère que tu as emporté un goûter. Bonjour, Odyspisseur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cette invitation dans Samouraï. Vous êtes auteur illustrateur, vous avez publié seul ou en collaboration une vingtaine d'albums et de bandes dessinées. On peut également vous lire dans Fluide Glacial sous le pseudonyme de Plutarque. Mais aujourd'hui, c'est surtout à l'auteur jeunesse qu'on va s'intéresser. Et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui en vrai, si je puis dire. Parce qu'en réalité, vous occupez déjà une place de choix dans ma famille. Et pour cause, cela fait quelques années que je lis avec toujours autant de plaisir à mes trois enfants les histoires que vous avez imaginées. Donc, de votre collaboration avec Clémentine Mélois est née La pire canaille ayant jamais navigué, Les chiens de pirates, mais aussi La compagnie des griffes ou encore Radio Banane. Et c'est tout seul que vous nous avez appris à apprivoiser une grenouille. Alors, on rit beaucoup à chaque fois, on ne s'en lasse pas, et même plus que ça, on est toujours impatient et enchanté de découvrir quelles nouvelles histoires ont bien pu germer dans votre imagination et à quoi vous ressemblez les personnages nés sous votre crayon. Et cette année, on est gâtés puisque vous avez publié deux nouveaux albums jeunesse à l'École des loisirs en tant qu'illustrateur avec Timothée Demeyer, il n'y a pas si longtemps, l'incroyable métamorphose d'Elisabeth Salette qui raconte... Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur cette histoire ?
Cette histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir une licorne, comme beaucoup de petites filles, sauf que ça va lui arriver vraiment. Et c'est un petit peu, c'est un peu une version jeunesse de la métamorphose de Kafka, mais en plus sympa hein, quand même, parce que déjà, elle se transforme pas en insecte. Elle va découvrir que le quotidien des licornes n'est pas toujours rose.
Pas toujours la vie rêvée, finalement.
Voilà.
Merci. Et puis, il y a très peu de temps, en mai dernier, a paru le deuxième épisode de La souris sorcière, dans lequel on retrouve Sophie, cette petite souris qui a su faire ses preuves auprès des habitants de la forêt, en leur offrant, malgré sa petite taille, de grandes solutions à leurs problèmes. Alors, on la retrouve avec sa fidèle araignée Minouche, sa gentillesse, ses bonnes manières et son inventivité, en compagnie d'un collègue magicien un peu gaffeur, qui sollicite auprès d'elle de l'aide parce qu'il a malencontreusement transformé une certaine Madame Chevrier en petite cuillère. Voilà. Donc, cette fois-ci, on plonge tout entier dans l'univers du conte. Carrément, on retrouve tous les codes. En même temps, vous vous en amusez beaucoup. Vous vous amusez à les détourner puisque on s'amuse de voir les personnages traverser une forêt mystérieuse, franchir une rivière insolite, un pont bizarre, une vallée de l'étrange, un chemin de l'énigmatique. On fait la connaissance des petits poulpiquets. Donc, est-ce que ce retour au conte, un peu, qu'on avait un peu déjà vu dans Comment apprivoiser une grenouille, est-ce qu'il témoigne d'un attachement particulier que vous aviez quand vous étiez enfant ou encore aujourd'hui?
Alors, pas tant quand j'étais enfant. J'ai une espèce de passion passion adolescente pour l'héroïque fantasy, qui était peuplée de lutins, de fées et de forêts mystérieuses. Beaucoup lu Terry Pratchett, par exemple, qui est un auteur anglais qui a fait de l'heroic fantasy, d'humour. Et ça, c'est vraiment, c'est très très chouette. C'est un des auteurs les plus drôles que je connaisse, très très anglais. Et j'avais envie, en fait, quand j'ai commencé La Souris Sorcière, j'avais vraiment envie de jouer avec cet univers-là. J'ai tendance à faire un peu tout le temps les mêmes livres, en fait. Ça, je m'en rends compte. Bah, notamment du côté de l'humour. Et donc, j'aime bien varier les univers. Et c'est l'univers des contes de fées. C'est formidable parce qu'il y a plein de... Je sais pas comment dire, plein de lieux communs, plein de thèmes qu'on connaît tous et avec lesquels on peut jouer. En s'en emparant. De même que les chiens pirates jouent avec l'univers de la piraterie. Et on y retrouve tout. Il y a le kraken, il y a les tempêtes, il y a les vieux loups de mer. C'est très chouette parce que on sait que le lecteur a déjà des repères et qu'on va l'emmener en terrain connu et en même temps on va le surprendre. Avec des idées bizarres et en racontant autre chose.
Alors, comme on l'a déjà dit, vos récits sont toujours très drôles, mais ce qui rend votre écriture si savoureuse, je trouve, c'est que ces petites pointes d'humour, enfin même ces franches pointes d'humour, sont toujours distillées dans une écriture très riche, très exigeante, avec une langue, je trouve, assez soutenue, qui ne sous-estime pas la capacité des enfants à s'enrichir de mots nouveaux. Et c'est un peu ce qui fait la singularité de vos récits. C'est à la fois cette cohabitation entre l'ironie, l'absurde, le décalé, et puis une narration dans sa forme assez classique. Est-ce que c'est important, ça, pour vous, d'offrir aux enfants des récits, de leur rendre accessible une langue
ça me paraît essentiel. C'est même pas vraiment, enfin je sais pas comment dire, c'est pas tant une intention que ça vient naturellement. L'idée est pas de leur apprendre des mots, mais de parler aux enfants comme à des lecteurs avant tout, même si c'est pas forcément eux qui lisent le livre et que c'est souvent leurs parents. Mais en fait, si je commence à me poser la question de tiens, est-ce que je vais utiliser ce mot-là parce qu'on le comprend ou on ne le comprend pas à 5 ans, ça va brider complètement l'écriture et on va arriver à quelque chose que je reproche souvent à la littérature jeunesse, qui est la mièvrerie et la tendance à tout simplifier, à se dire « Ah, ça c'est bien pour le petit lecteur ». J'ai pas du tout envie de faire ça. Si le petit lecteur tombe sur un mot qu'il ne connaît pas, soit il cherchera le sens,
soit on lui
expliquera, soit il le devinera avec le contexte, comme on le fait en lisant une langue étrangère. Moi, j'aime beaucoup lire en anglais. J'ai pas un vocabulaire parfait. Il y a des mots que je comprends pas. Et ben, ça m'intéresse à chaque fois. Soit je cherche le sens, soit juste ça a une chouette sonorité. Mm-hmm. Et ça enrichit ma lecture.
Ouais. Les chiens pirates ou pour la compagnie des griffes, La Souris Sorcière, elle est aussi structurée en chapitres, ce qui n'est pas si commun pour un album jeunesse. C'est commun pour un roman jeunesse, mais pour un album jeunesse, pas tant que ça. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que c'est juste pour rendre service aux parents qui ne sauraient pas comment interrompre l'histoire au moment du coucher? Ou alors c'est plus que ça, il y a vraiment une intention de réaliser sérieusement des récits qui au contraire ne se prennent pas trop au sérieux. Qui sont...
Alors il y a les deux. Au départ, pour Les Chiens Pirates, c'est une idée de Clémentine Mélois de séquencer le chapitre. Déjà parce que, aussi bien pour elle que pour moi, une histoire, ça se conçoit en chapitre. Je crois que c'est, en tant que lecteur, c'est comme ça qu'on connaît les histoires. Et aussi, il y avait l'idée de jouer pour Les Chiens Pirates avec les jours de la semaine. Avec l'idée que les parents puissent lire chaque soir un chapitre qui correspond à un jour de la semaine. Voilà. Alors on a appris avec Clémentine que ça marchait assez mal puisque les enfants négocient systématiquement. Ouais. 2-3 jours, voire la semaine entière. Bon, ça après c'est...
Moi je lis toujours l'album en entier, j'arrive pas à m'arrêter.
Ah ouais, c'est courageux parce qu'ils sont longs.
Ouais, mais bon, on s'y prend un peu plus tôt ou on finit un peu plus tard, c'est pas très grave.
Mais alors ça c'est vraiment une des choses qui m'a épaté ces dernières années en faisant des dédicaces et en rencontrant des lecteurs et leurs parents, c'est de découvrir à quel point ces albums sont devenus des moments de partage entre les parents et leurs enfants.
Oui,
et ça, c'est vraiment très, ça, c'est très, très chouette. C'est vraiment une heureuse surprise.
Ouais, j'imagine de rencontrer ces lecteurs et puis d'avoir des retours, ouais, comme vous dites, sur les moments quoi, passés autour de ces livres. Et...
Oui, oui, on a rencontré une famille à un moment où je crois qu'ils étaient cinq, chaque membre de la famille s'est donné un surnom de chien pirate, par exemple. Et donc, au petit déjeuner, ils disent, je sais pas, moi, passe-moi la confiture, demande au calfa plutôt. Voilà. Donc, c'est très chouette quand les gens s'approprient à ce point des histoires.
Alors, réaliser des bandes dessinées, des albums jeunesse, c'est toujours raconté en mots et en dessin. Alors, j'imagine que c'est une question assez classique, mais votre dessin, il est chaud, généreux, il en dit autant que le texte, autant, plus, moins, pas la même chose. Alors, en tous les cas, comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir ce qu'on met dans le dessin et ce qu'on met dans le texte ? Est-ce que vous écrivez d'abord l'histoire telle qu'elle sera écrite, telle qu'elle sera en mots dans l'album, et puis ensuite vous ajoutez dans le dessin, ou c'est l'inverse ou...
Quand je travaille seul, je commence toujours par le texte. J'écris l'intégralité du texte. Je ne fais même pas de croquis, je ne sais même pas à quoi vont ressembler les personnages.
D'accord.
C'est vraiment... je fais appel au type dans ma tête qui écrit des histoires. Je lui commande une histoire, il l'écrit, et après je passe ça au type dans ma tête qui fait des dessins. Voilà, c'est un peu...
D'accord.
C'est un petit peu schizophrène comme ça. Mais ça fonctionne...
Pas du tout.
Ouais, ça fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est complètement dissocié.
Ok. Et donc, comment est-ce que vous puisez votre inspiration ? Est-ce qu'il y a des choses... Il y a souvent les enfants cohabitent souvent avec les animaux.
Oui, parce que...
Sauf dans ce dernier album, il n'y a pas d'enfants.
Oui, c'est vrai,
dans celui-ci,
il n'y a pas d'enfants. C'est-à-dire que, aussi bien dans Les Chiens Pirates que dans mes histoires, l'humain est un animal comme les autres. Donc, parfois, des personnages ont été écrits comme étant des animaux, et puis à un moment, tiens, finalement, ça va être un humain.
Ouais.
C'est pas très important. En fait, un personnage pourrait être un humain, un cochon ou un tronc d'arbre.
C'est un détail.
Ouais, en fait, c'est un détail. C'est presque un détail visuel.
Ok. Alors, vous faites souvent s'adresser le narrateur, en l'occurrence vous, j'imagine, que vous incarnez le narrateur, pas toujours ?
Pas toujours.
Non,
je sais pas. Par exemple, je me suis rendu compte de quelque chose il y a pas longtemps, c'est que dans Comment apprivoiser une grenouille, il y a une lectrice qui m'a écrit et qui m'a dit donc une maman qui lisait l'histoire à sa fille, qui m'a dit je fais moi la voix de la lectrice, de la narratrice.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que j'avais écrit ça de façon épicène, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir
si
c'est un narrateur, une narratrice. Voilà, c'est la voix dans ma tête.
D'accord.
Qui
Donc
écrit.
La troisième.
Oui. Voilà, ouais, ça commence à faire beaucoup
trois.
De gens.
Ça fait trois. Ok. Et donc, ce narrateur ou cette narratrice, elle s'adresse souvent directement soit au lecteur, soit au personnage. Elle l'interpelle, elle blague avec lui. Et une de ces petites remarques qui revient de manière récurrente, c'est qu'elle nous fait souvent, elle nous rappelle souvent comme la vie est bien faite. Alors derrière l'ironie de cette petite remarque, on perçoit quand même une forme d'optimisme, de réconfort, quoi, qui met plutôt ou plutôt une espèce de confiance dans les circonstances, qui est très réconfortante pour nous, les lecteurs. Alors est-ce que c'est heureux hasard ? Ils font aussi partie, ils ont aussi fait partie de votre vie, de votre enfance ?
Oui, certainement. C'est un peu inconscient. Sans doute, moi j'ai grandi dans un cirque, ce qui déjà est une chance en soi, parce que c'est une enfance vraiment, vraiment très rigolote.
Très singulière.
Très spéciale. J'allais pas à l'école, je passais mon temps à faire du vélo autour du cirque. Bon, c'est vraiment, c'était très très chouette.
Extrait des Villes d'un jour, bande dessinée dans laquelle Rudy Spicer nous raconte son enfance. Mon pays a une superficie de 5400 mètres carrés. Ses frontières sont des barrières en fer. Sa douane s'appelle la caisse. Son drapeau est rouge et jaune avec un tigre dessus, ou une otarie, ou un gros clown qui montre du doigt, ça dépend.
Sa flotte est constituée de 115 véhicules rouges et jaunes et d'un dragon sur roues qui fait de la fumée avec son nez. Mon pays change de capitale quotidiennement. On appelle ça les villes d'un jour. Dans mon pays, il y a des coutumes et des superstitions locales. Il n'y a pas de loge numéro 13 sous le chapiteau, pas de voiture 13 non plus. On ne porte pas de verre sur la piste. Et il y a surtout une règle absolue, du genre gravée dans le marbre, quoi qu'il arrive, le spectacle continue.
C'était peuplé d'animaux bizarres, enfin je veux dire mon quotidien était d'être entouré de girafes et d'éléphants.
Et d'artistes.
Et d'artistes.
C'est pour ça d'ailleurs que vous mélangez tout en fait dans votre esprit. Pour vous, il n'y a peut-être pas de différence entre...
C'est possible, ouais, possible que... C'est pour ça que tout se mélange. Oui, parce que les animaux, en fait, étaient vraiment très, très présents au quotidien. Oui. C'est peut-être que ça vient de là. C'est intéressant comme psychanalyse. Les heureux hasards. Alors, je suis très content que vous me disiez que ça a un côté réconfortant dans les livres. Oui. Parce que si ça peut produire cet effet-là, c'est réussi. Oui. Parce que vraiment, c'est une des... Alors, c'est difficile de dire que les livres ont un but ou une mission. Les miens n'ont pas de morale en général, parce que vraiment ça j'aime pas trop. J'essaie pas d'enseigner des choses parce que je trouve que c'est pas le but de la littérature, fût-elle littérature jeunesse. Par contre, s'ils peuvent apporter un petit moment de joie, de rire ou de réconfort, là je suis vraiment c'est ce que Lewis Trondheim appelle ça donner des petits biscuits.
Exactement.
Et ben si mes livres arrivent à être des petits biscuits de réconfort par moment, ouais, bah, je suis content et la mission est accomplie.
Et donc comment vous en êtes venu? Alors c'est pas par heureux hasard alors que vous êtes devenu heureux auteur, illustrateur, jeunesse.
Alors non, ça va paraître très très prétentieux, hein, mais quand j'avais 5-6 ans, c'était mon projet de vie.
C'était déjà très clair pour vous?
Oui, ouais. C'était pas ce qui est super bizarre, c'était pas un rêve, hein, c'était un projet. C'était vraiment une intention. Plutôt de faire des bandes dessinées puisque c'est ce que je lisais à l'époque. J'ai pas lu beaucoup d'albums jeunesse parce que je crois que simplement on m'en a pas mis dans les mains. Donc j'ai commencé avec Astérix et Lucky Luke et c'était très bien comme ça. Donc c'est le métier que je voulais faire quand je serais grand. Ce qui est rigolo parce que j'habitais vraiment dans un univers peuplé d'artistes de cirque, où tout le monde, où les enfants jonglaient et apprenaient à faire du poney. Et moi, en fait, je dessinais déjà tout le temps, parce que mon but, c'était de faire des livres dessinés.
Ouais. Plus que d'être dans l'action, oui, non, chose extraordinaire avec son corps.
Non, non, alors pas, ça ne m'intéressait pas du tout.
Vos parents vous ont toujours accompagné dans ce choix-là ?
Complètement. Ils étaient très gentils, en fait. Je pense que si j'avais voulu être plombier, bon... Ah, ça les aurait peut-être un peu surpris, mais ils m'auraient dit d'accord, bah écoute, très bien,
très
vas-y.
Bien.
Quoi. Oui.
Ouais.
Oui. Donc dessinateur, ça allait très vite.
Vous deviez du coup essayer maintenant de trouver un mot qui pourrait être associé à votre vocation d'auteur illustrateur, qui résumerait, enfin pas votre vocation, mais qui résumerait l'origine de votre projet d'écriture.
Oh, ça c'est pas facile. Un mot. Ah, je sais pas. Ce que je sais, c'est que alors c'est peut-être la joie. Moi, j'éprouve vraiment. En ce moment, je suis en train de dessiner le tome 6 des Chiens Pirates. Et tous les jours, quand je me mets à mon bureau, je suis content. J'éprouve de. C'est un peu niais, hein, ce que je vais dire. J'éprouve de la joie à faire ce que je suis en train de faire. Et peut-être que c'est un peu de ça qui se ressent quand on lit les livres. Parce que ben, tous les jours, en fait, ouais, je me dis que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance de faire ce métier-là.
Est-ce que vous les testez en famille d'abord, les albums, ou pas? Vous les gardez pour vous?
Non, non, non. Et puis, mes filles sont beaucoup trop grandes maintenant pour les tester objectivement. Ça marcherait pas. Donc non, en fait, c'est vrai que je les teste pas. Je pars du principe que si ils me font rire et si ils font rire le lecteur que j'étais à 6-7 ans, bon, c'est déjà bon signe.
Alors, vous nous avez parlé du tome 6 des Chiens Pirates, mais est-ce que vous avez d'autres projets en cours ?
Il y aura donc, tome 6 des Chiens Pirates. Clémentine est en train de réfléchir à un tome 7. Il y aura vraisemblablement une suite à la Compagnie des Griffes aussi. Pas tout de suite, il va falloir patienter un peu. Voilà. Et puis peut-être, j'ai dans la tête aussi des histoires de souris sorcières qui sont rangées dans des tiroirs de mon esprit.
Confiées à une autre personne.
Oui, bah je passerai ça au type qui écrit.
Qui gère les projets en cours.
Voilà.
Alors, dans Samouraï, on s'intéresse un peu au rituel d'écriture. Alors, est-ce que quand vous vous mettez au travail, même si c'est toujours une grande joie, comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous vous imposez quand même un peu des contraintes ?
Alors, pour le dessin, c'est pas vraiment des contraintes, ce sont des contraintes de temps, mais je travaille de façon très régulière, tous les jours. Pour l'écriture, c'est différent, c'est beaucoup plus difficile et laborieux. J'écris en général dans le train. Je trouve ça très, très, très efficace pendant les longs trajets.
D'accord. Et ça impose cette contrainte d'attendre de voyager.
Oui.
Ou alors oui, vous prenez le train juste pour pouvoir écrire.
Je serais capable de prendre le train juste pour écrire, ou à la limite un long trajet en bus aussi, ça peut être assez efficace. Il y a aussi il y a un projet d'adaptation en dessin animé des Chiens Pirates. Il fallait trouver des idées pour des épisodes. C'est vraiment à l'état de projet. Hein. Et je me suis rendu compte que en fait ça marche très bien dans le bus, ça. C'est-à-dire que si je sais que j'ai 20 minutes de bus et que j'ai une idée, une ou deux idées à trouver, c'est une sorte de mini-contrainte et c'est très efficace.
Très bien.
Voilà, donc si vous voulez écrire des histoires, mon conseil, prenez les transports en commun.
Finalement, je vous ai rendu service ce matin en venant vous imposant les 39 minutes de bus.
Oui, c'était super, ça m'a avancé dans ma journée.
Pas de quoi. Et puis, pour terminer, en plus du mot, je demande toujours s'il y avait une musique qu'on pourrait associer à votre univers. Enfin, à votre univers, j'aime pas trop ce mot, mais à votre travail, à vos créations.
Pas facile non plus, ça, parce que
musique
ça change.
Musique office de générique.
Ça change vraiment. Qui va faire office de générique, là ? Waouh. Ah, ça, c'est pas évident. Je sais pas. Ce serait sans doute du Paul McCartney, parce que c'est ce que j'écoute quand j'ai une musique qui me plaît pas dans ma tête. Vous savez, un truc entêtant et ennuyeux.
Je vois bien.
Eh bien, je remets mentalement du Paul McCartney et ça efface le reste. Après, ça va pas être facile de choisir. Je sais pas. On va dire Blackbird parce que j'ai découvert il y a quelques jours que Paul McCartney a écrit Blackbird en partant d'un accord d'une suite de Bach, qui est une de mes autres passions, Bach. Et donc là, j'ai été émerveillé parce que de découvrir que là, il y avait à la fois Paul McCartney et Bach dans le même morceau, c'est une épiphanie.
La musique, c'est la musique ultime.
Voilà.
C'est ça. Bien, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Et à très bientôt, alors.
À bientôt.
Samouraï, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter ce chouette moment passé en compagnie de Ruth Spicer dans 15 jours ou dès aujourd'hui en podcast sur la page Samouraï du site jetfm.fr. On se retrouve dans un mois, même jour, même heure, pour un nouveau Samouraï. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
bed singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.